t'as une place au fond de ta bulle. Et si je t'agace, si je suis trop nul, je deviendrai tout pâle, tout muet. Fais-moi une place au fond de ton cœur pour que je t'embrasse lorsque tu pleures.
Il y a toujours les Vigates, Stanley Radio Here, un micro aussi au relais, je vais faire le décodeur, j'ai dit bonjour, comment ça va, les grandes oreilles, les écouteurs de radio. C'est presque un marronnier, tous les mercredis matins de 11h30 à midi pile, nous sommes ensemble, moi derrière le micro, fier comme Artaban, de partager cette demi-heure avec vous et heureux de vous retrouver comme d'habitude. Enfin, on y arrive et j'ai fait une place, comme le chuchote notre juge Julien Clerc, à nos oreilles, à un voisin sympa, bienveillant. Écoutez bien, il est véloman, skiman, batman, jazzman, parapentman et businessman. Tout ça en man. Et on va ce matin se raconter, se mettre sur le rebord du monde, le rideau s'ouvre et hop la guys, ça démarre. Bonjour Cambiz, c'est ton prénom en bise?
Oui, bonjour André, oui.
Ça me fait plaisir de partager ce moment avec toi aujourd'hui.
Ah bah, pas plaisir partagé, je suis ravi d'être avec vous.
Bah nous aussi, ça fait plaisir. Alors dis-moi, comment ça gazouille dans ton monde, Cambiz?
Ah bah écoute, tout va bien, je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu viens de dire, sauf businessman, ça fait un peu prétentieux, je suis pas businessman, je suis un vrai passionné.
T'as un petit commerce, c'est ça que je voulais dire.
Oui, j'ai un petit commerce.
On en parlera tout à l'heure. Alors j'ai lu hier soir sur internet que Cambiz, c'est un prénom perse, masculin, qui veut dire doué, fortuné, ambitieux, combatif, grand sportif. Ça te convient, ça, monsieur Bise?
Je ne sais pas si, quand mes parents ont choisi mon prénom, on pensait à tout ça, mais dans la famille, tous nos prénoms commencent par un K.
Ah.
KV, mon grand frère, paix à son âme, qui est décédé il y a 2 ans.
Bien triste, ouais.
Et Cambiz, donc votre serviteur, et Cameron, mon petit frère, qui est directeur d'Humanis, donc bien implanté aussi en Alsace.
En Alsace, ouais.
Dans le milieu associatif.
Alors ta route est toute tracée, fortuné, sportif. Et parle-moi de tes origines. Tu viens de quel pays? Tu viens d'où? Tu es persan?
Oui, je suis d'origine perse. Moi, j'ai la chance d'être né à Ispahan.
C'est où ça?
Alors, Ispahan, au centre de l'Iran, une ville splendide que je souhaite à tout le monde de visiter un jour.
Raconte-moi, c'est comment ton enfance là-bas?
Alors, moi je suis né à Ispahan, mais papa est décédé très très tôt. Maman a dû déménager, moi j'avais 6 mois quand papa est décédé. Donc, j'ai pas grandi à Ispahan. Maman est arrivée à Téhéran, donc j'ai grandi à Téhéran. Qui est une grande ville, comme toutes les grandes villes, très busy, comme diraient les anglophones.
Mais comment était ton enfance? Comment c'était là-bas? Raconte-moi, si on ferme les yeux tous les deux, c'était comment là-bas? C'était, il y avait de la nature, c'était désertique?
Oui,
c'était...
oui. Moi, la région, ma région d'origine, voilà, je suis né à Ispahan, mais grandi à Téhéran, mais la famille vient d'un endroit désertique, c'est vrai, un vrai oasis.
Il y a des dunes, il y a du sable?
L'Iran montagneux, même dans le désert, il y a des montagnes qui montent à plus de 4000 mètres. Montagneux quand même, mais...
Donc neigeux, il y a de la neige en hiver?
Eh bien, beaucoup, beaucoup de neige.
Il fait
beaucoup
froid.
De neige en hiver. Il fait froid, très froid en hiver, bien plus froid qu'ici, bien plus de neige que dans nos Alpes françaises et européennes. Mais moi, je viens d'un endroit où c'est un oasis merveilleux, avec beaucoup de vergers, avec des agriculteurs, des éleveurs. Donc, la famille est d'origine rurale.
Attends, Thomas, tu m'entends, Thomas? Tu peux nous mettre un petit peu de la musique de son pays pour quand on parle là tous les deux ensemble, en numéro 2? Alors, ça, c'est ta musique de ton pays, tu reconnais?
Ah oui, bien sûr.
C'est beau, ça.
J'ai la chance d'avoir une musique splendide qui est reconnue à travers le monde et qu'on essaye de mettre en avant.
Tu as des fois la nostalgie? Est-ce que des fois les racines te chatouillent
ah
et
oui,
te dire...
bien sûr, bien sûr. Et je pense que plus ça passe, plus on a la nostalgie. Oui, c'est...
Et un jour, en 79, ce fameux vendredi noir, tu étais obligé de quitter ce monde pour aller dans un autre monde.
Tout à fait. Donc il y a eu la Révolution. Il y a eu la Révolution et donc il y a eu la République islamique qui s'est mise en place. Et donc...
Ça c'est quand Khomeini est venu...
Quand Loucha est parti, Khomeini est arrivé... Et
moi, je me souviens bien parce que j'étais à Paris à ce moment-là, comme jeune caméraman, et on l'avait filmé dans la région parisienne. Il allait quitter son tapis et il allait partir en avion, et nous, on l'a laissé. Voilà, et donc après, il est venu dans ton pays.
Tout à fait.
Et je me souviens bien de ce monsieur.
Oui. Il a passé un moment en France.
Ouais, c'est ça.
Après son exil en Irak. Hein. Donc, il a transité par la France. Et un beau jour, il est arrivé.
Et toi, tu as quitté ton pays.
Et donc, nous, on a dû quitter le pays.
Et en fait, tu as quitté ton pays, on peut dire ça avec une belle image, tu t'es envolé avec ton tapis persan pour arriver vers l'ouest, et tu t'es posé ici, en Alsace.
Tout à fait.
À Strasbourg.
Alors, c'est pas... Oui, l'image est belle, mais c'est pas aussi...
Aussi beau que ça, quoi.
C'est pas aussi beau que
j'imagine.
Ça. On ne quitte jamais son pays de gaieté de cœur.
Ouais,
surtout à cet âge-là, moi j'avais 15 ans et demi et 16 ans quand j'ai...
Ton adolescence, quoi.
Voilà, mon adolescence, quitter ses copains, ses amis,
ses copines,
son pays, arriver dans un pays où tu ne parles pas du tout la langue.
Et, tu ne parlais pas le français ?
Pas du tout, pas du tout, pas un mot. Donc c'est vrai que les débuts ont été très très difficiles, mais comme je le dis toujours, j'ai eu une chance inouïe d'arriver en France, plus particulièrement en Alsace.
Et pourquoi t'as choisi l'Alsace ? Pourquoi
t'as choisi ? Je ne l'ai pas choisi. Je ne l'ai pas choisi parce que maman s'était remariée après le décès de papa, 6 ans après le décès de papa. Et donc, mon beau-père est parti bien avant nous. Bien avant nous, le jour même où Khomeini est arrivé en Iran, lui, il est parti avec le même avion. Donc, lui, il avait des liens, des amis à Strasbourg. Il est arrivé à Strasbourg. Et c'est pour cela que nous aussi, les enfants... On l'a suivi, on est arrivé à Strasbourg, et contrairement à d'autres membres de la famille, vous savez, on a tous été dispersés après
ça.
La Révolution. Donc,
quelle tristesse.
Ah oui, oui. Ah, on a dû quitter notre beau pays. Y en a beaucoup qui sont partis aux États-Unis ou dans les pays du Nord.
Et en fait, tu étais heureux d'être à Strasbourg. Est-ce que Strasbourg, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu es venu ? Est-ce que tu as vu aussi que cette ville est une ville de décor de cinéma, qu'elle est belle, qu'elle est accueillante ? C'est ce que tu as ressenti quand tu es arrivé ou...
Alors, le ressenti des débuts n'ont pas été aussi idylliques. On était surpris de voir que, bon, c'était voilà, les années 70, fin des années 70, début des années 80. Moi, je suis arrivé en septembre 79. Et donc, en 79, c'était pas non plus la belle ville qu'on connaît aujourd'hui.
Ouais,
on était surpris de voir que les Alsaciens se couchaient très, très tôt. C'était le premier truc qui nous a marqué, c'était ces volets fermés à 19h le soir.
Wow.
On n'avait pas l'habitude de voir ça. Mais...
Les volets étaient clos et le cœur était clos des Alsaciens, tu veux dire ?
Pas du tout. Pas du tout. Justement, le cœur des Alsaciens, moi j'étais adopté très, très vite. Non, moi je trouve que, contrairement à ce que disent dans d'autres régions de la France, « Ah bah tiens, t'es arrivé en Alsace, dis donc, ça a dû être difficile. » Je dis non, pas du tout. L'Alsace, moi je suis heureux d'être arrivé en Alsace, parce que peut-être que c'est un peuple qui est un peu plus difficile
un peuple un peu froid, tu veux dire, un peu,
parce qu'ici, au premier abord,
dans le nord de l'Alsace, tu sais qu'on a des ours polaires et des pingouins là-haut. Hein,
c'est oui, aussi, je vois très bien.
C'est aussi un froid glacial.
Mais bon, une fois qu'on est,
que tu es là. Et alors, dis-moi, tu me parles de ton pays. Est-ce que tu écris également le persan ? Tu le parles ? Comment tu dis, par exemple, bonjour à nos auditeurs ?
Salam.
Attends, c'est comme dans cette maison ici.
Bien sûr.
Ça se dit de la même manière.
Ah bah oui.
Donc tu t'es pas trompé, t'es dans la bonne maison.
Je suis dans la bonne maison, bien sûr. D'autant plus que, c'est vrai, je me répète beaucoup avec mes amis de confession juive, c'est vrai qu'on avait un lien hyper fort à l'époque du chat. Je sais que moi, dans la famille, à chaque fois que les gens voulaient se faire soigner, être bien soignés, ils allaient se faire soigner en Israël. Et... De l'autre côté, d'autres qui venaient visiter mon beau pays. Et on avait des liens très, très forts avant que la République islamique arrive et qui nous mette dans cet état-là.
Je peux te proposer un petit peu pour reposer les oreilles, une petite musiquette. Thomas, mets-nous voir la musique numéro 3, là. Un poète alsacien.
wie der Berin aufkomme, wie der Berin abbrennt. Und ich hab jo mi Schätzl am Pfeife erkennt. Und ich kenn's jo am Pfeife, und ich kenn's jo am Gehen. Mein Schätzl ist klein, aber wunderlich schön.
C'est un grand poète alsacien qui J'adore. Habite pas loin d'ici et René Aigles qui est connu, qui fait de la belle poésie, qui a fait de J'adore. La télé, qui a fait plein de choses. Ouais. C'est un monsieur très positif qui parle de beaucoup de choses. Je l'ai connu aussi pendant des reportages. Alors tout à l'heure, j'ai parlé de toi, Cambise, de tes métiers en manne et tout ça. Parle-moi un petit peu de tu es voisin, tu habites pas loin du parc des Contats, tu es juste à côté du Consulat américain. Et là-bas, tu as monté ton business, tu as fait un premier travail qui est véloman. Parle-moi un petit peu de ce véloman que tu
oui.
es.
Alors c'est vrai que moi, je suis arrivé ici, bon, jeune, donc il a fallu faire des études. Et donc on m'a inscrit dans une école et très très vite la guerre Iran-Irak a commencé et ça a un petit peu compliqué les choses. Maman ne pouvait plus. Subvenir à nos besoins parce que le seul membre de la famille qui travaillait à cette époque-là, c'était maman. Donc, il nous envoyait de l'argent pour vivre. Et donc, les échanges bancaires ont été rompus. Et donc, on s'est retrouvés sans ressources. J'ai dû quitter l'école pour aller travailler.
Parle-moi un petit peu ton métier d'aujourd'hui. On parle des autres métiers plus
exactement.
Loin.
Exactement. Donc, je suis arrivé au vélo vraiment, bon, voilà, en rentrant des Alpes.
On parlera de ça tout à l'heure, du skiman, mais là,
une
véloman.
Partie de la vie. Donc voilà, ouais. Une fois que mon gamin est né, j'avais envie de revenir un petit peu retrouver mes proches, mes frères.
Ta famille
que,
Alsace.
Voilà, ma famille en Alsace. Je cherchais, j'étais passionné de vélo depuis toujours, déjà en Iran.
T'es un sportif, ça se voit.
Oui, mais déjà en Iran, tous les copains de quartier venaient faire réparer son vélo chez Cambise. C'était celui qui savait réparer le vélo, qui savait bidouiller les vélos. Et déjà, jeune, en Iran, je réparais les vélos des copains. Et donc, quand...
Mais c'était pas les mêmes vélos qu'il y a aujourd'hui.
C'était pas du tout les mêmes vélos qu'il y a aujourd'hui.
C'est des vélos de grand-père, j'imagine.
C'était pas du tout les mêmes vélos qu'il y a aujourd'hui. Ouais, et ouais. C'est vrai que quand je suis arrivé en Alsace, quand je suis revenu en Alsace, j'ai entendu la... je suis tombé sur une émission de télé qui disait que l'INSEE prévoyait que le nombre de cyclistes allait tripler d'ici 5 ans. C'était bien avant le Covid.
Donc, tu as vu le flair.
Et là, je me suis dit,
tu as eu du nez, ouais.
Ah oui. Et dans les Alpes, je m'étais déjà occupé de la réparation des vélos pour mon patron. Donc, il y avait un parc de vélos de location. Après l'hiver, où je m'occupais des skis, donc il m'a demandé si je pouvais m'occuper du parc de location du magasin. Et donc, voilà, comme ça, je me suis dit, voilà.
Strasbourg, c'est les vélos, quoi.
Le vélo. Et puis donc, j'ai un très bon ami avec qui je suis associé aujourd'hui, Fariard, donc qui en même temps venait de perdre son travail, à qui j'ai proposé. J'ai dit, écoute Fariard, je suis en train d'essayer de monter un magasin de vélo. Est-ce que ça te dit qu'on fasse ça ensemble? Et donc, il m'a demandé quelques jours pour réfléchir. Et puis, il m'a dit, OK, on y va. Et ben voilà.
Et là, t'as un beau vélo. Au début, c'est parce que Strasbourg, c'est quand même, faut pas l'oublier, c'est la première ville en France où il y a autant de pistes cyclables. Je crois qu'on a plus de 600 km de pistes cyclables à Strasbourg. C'est pas de la peinture sur la route, hein. C'est des vraies pistes cyclables. Donc le vélo, il avait le vent en poupe, hein. On peut le dire ça. Quand
déjà, c'est vrai qu'on avait une ville qui était vraiment une ville de vélo, de cyclistes.
Un peu comme Amsterdam, quoi. Bon, on ne va pas comparer.
On ne peut pas comparer.
Mais quand même, Strasbourg, c'est là, quand même, tout le monde fait du vélo. Moi, je fais du vélo, t'en fais.
Bien sûr, on se déplace tous à vélo et on sait aujourd'hui que se déplacer à vélo, c'est quand même...
Musclé tes jambes.
C'est bénéfique dans tous les sens du terme.
Exactement.
C'est positif.
Parce que toi, l'autre jour, j'ai appris avec toi que tu disais que c'était un vélo muscle. Ça, je l'avais jamais entendu.
Musculaire. Voilà, un vélo classique. Sur lequel on pédale, on appelle cela un vélo musculaire. C'est vrai que...
C'est beau comme terme, je ne connaissais pas ce terme. Ouais,
voilà, on a les VAE pour le vélo à assistance électrique et le vélo musculaire pour le vélo qui avance grâce...
À tes jambes.
À nos jambes.
Et la tête. Mais le vélo électrique, est-ce que c'est quelque chose qui fonctionne à Strasbourg?
Alors, le vélo électrique fonctionne à Strasbourg, bien sûr. Peut-être un peu moins que d'autres villes où on est un peu plus confronté au... Strasbourg, on est une ville plate. Hein,
il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de monticule.
Ça fonctionne, alors pour répondre à ta question, ça fonctionne bien mieux à Paris ou à Lyon ou à Marseille.
Ou dans
villes
le Grand
Ouest. Voilà, les villes où il y a un peu plus de relief, ça fonctionne un peu mieux. Ici à Strasbourg, on roule encore bien plus avec un vélo musculaire qu'un vélo électrique. Mais pour tous ceux qui habitent un petit peu en banlieue, qui habite un petit peu plus loin.
Dans le Korsberg, par exemple, où ça monte
par exemple, bien sûr.
Qui est aussi un endroit de vélo, hein, les gens.
Un petit peu plus vallonné.
Oui, c'est ça. Et là-bas, les gens achètent des vélos électriques.
Là-bas, il y a beaucoup plus de gens qui achètent des vélos électriques. Et voilà, quand on part aussi dans les Vosges, ou dans la Vallée de la Bruche, ou d'autres... Quand
je discute avec... On peut aller loin avec un vélo électrique ? On peut aller...
On peut aller loin avec un vélo électrique.
Ça on peut aller jusque dans le Korsberg, jusqu'à Saverne et revenir
tout
sans
à fait. Aujourd'hui, on peut très facilement faire une centaine de kilomètres dans la journée avec un vélo électrique. Très facilement.
Donc, c'est un bon investissement, quoi. Si quelqu'un a envie de faire du vélo, se déplacer...
C'est un très bon moyen de locomotion aujourd'hui.
Et en fait, quelqu'un qui s'installe aujourd'hui comme toi, vélomane à Strasbourg, bah, il ne se trompe pas trop, non ? Il peut gagner sa vie, il peut être
bien sûr,
heureux.
Oui, ça, c'est un métier d'avenir, c'est vrai. C'est un métier qui a le vent en poupe et puis qui reste viable, comme on dit.
Oui, c'est ça. Maintenant, on a parlé de ton vélomane. Maintenant, on va parler d'une autre passion, qui est le monsieur skiman, comme bis. Qu'est-ce que c'est d'être skiman ? Raconte-moi.
Alors, un skiman, c'est celui qui répare et qui prépare les skis.
Mais pas à Strasbourg.
Pas à Strasbourg.
Tu es allé où alors pour faire ça ?
Alors moi, j'ai dû aller dans les Alpes pour faire ça. J'avais un métier durant l'été quand j'étais à Strasbourg avant de partir dans les Alpes. Et donc, je cherchais à compléter, trouver un métier pour l'hiver. L'été, j'étais guide touristique à Strasbourg, métier que j'adorais. Je faisais visiter cette belle ville à tout type de touristes.
Ah, tu me l'avais pas raconté, ça.
C'est vrai, c'est vrai.
Tu découvres un nouveau truc.
Ah oui,
c'est bien.
tout à fait. Je faisais visiter la ville aux touristes de toute origine. J'adorais faire ça.
Tu parlais quoi hein? Tu parlais donc en...
Alors, on avait des commentaires qui étaient sur des cassettes à l'époque.
Ah, d'accord.
Voilà. Donc, j'avais plusieurs cassettes dans ma petite voiturette. Et... selon l'origine, la nationalité des touristes que je transportais, je passais en allemand, en anglais ou en français.
Ah oui, chouette.
J'adorais ce métier. Donc, c'est Farriard qui nous avait embarqué dans cette... donc, mon associé d'aujourd'hui qui nous avait embarqué dans cette aventure. Lui, il avait trouvé le boulot et donc il m'a proposé de travailler avec lui. Et c'est vrai que une fois que la saison estivale était terminée, c'était difficile de trouver du travail. Donc je me suis dit tiens, l'hiver, qu'est-ce que je pourrais faire ? J'adore le ski. J'ai appris à skier en Iran. Mon beau-père, c'était celui qui a installé le premier remonté mécanique.
Waouh !
En Iran, c'est lui qui l'a installé. C'était un passionné de ski. Et avec ses copains,
un beau jour... Donc tu godis comme un dieu, quoi, j'imagine.
Je me défends pas mal,
Ça se voit,
Et c'est vrai que papa, il avait fait... ils avaient, à l'époque, avec un vieux moteur de Jeep, ils avaient fabriqué un tire-fesse.
Ah ouais,
pour pouvoir monter... les montagnes en Iran. Et donc, voilà, naturellement, je suis allé faire une formation de skiman.
À Val Thorens, je crois. Hein.
Alors, je suis allé faire ma formation de skiman à Thonon-les-Bains.
Thonon-les-Bains, ouais.
Voilà, c'est encore la France, encore une fois, je finirai jamais de le dire, qui m'a donné la chance de...
Ouais. Parce que... Ouais, mais tu l'as aussi provoqué, cette chance.
Oui.
On t'attend pas, quoi. Je veux dire, personne t'attend. Tu l'as provoqué, cette chance.
Tout à fait. Mais enfin, voilà, il ne faut pas oublier qu'on vit dans un pays où, quand on a de la volonté...
On peut y arriver.
Tout est mis en place
pour qu'on puisse
réussir. Voilà. Donc, on m'a payé une formation de skiman à Thonon-les-Bains. Donc, après ça, quand je suis sorti de ma formation, j'avais toute une liste de magasins qui cherchaient des skiman.
Donc, tu n'avais pas de problème pour trouver un travail.
J'avais pas de problème. J'avais des amis à Val Thorens. Je dis, tiens, je veux retrouver mes potes.
C'est un grand domaine skiable, hein, Val Thorens. Hein.
C'est le plus grand domaine skiable au monde.
Au monde, oui, je sais qu'il y a...
Les Trois Vallées.
C'est Trois Vallées, exactement.
Les Trois Vallées, c'est le plus grand domaine skiable au monde.
Ça appartenait à Kili, ça, ou pas ?
Non, pas du tout.
Ah, je croyais que c'était à Kili.
Non, ça c'est... je pense que c'est... ça me revient pas.
Donc mais... et là tu préparais les skis pour l'hiver, tu leur mettais les chaussures en plus, tu vendais des skis.
Je m'occupais de parcs de location de skis, donc réparer les skis quand ils rentraient de location. Et puis petit à petit, je me suis vraiment passionné pour la préparation du ski. Je voulais vraiment aller loin et vraiment voir qu'est-ce qui fonctionne, bah, comment ça se fait qu'un ski tourne mieux que l'autre, un ski accroche mieux que l'autre, glisse mieux que l'autre. Et donc, comme ma copine de l'époque faisait de la compétition et elle a fait de très bons résultats puisqu'elle a fini première en Coupe d'Europe de ski de boss.
C'est pas mal, ouais.
Voilà. Oui. Je lui préparais. Donc, c'était moi son préparateur. Et
c'est pour ça qu'elle est devenue championne. Sans
c'est
doute.
Peut-être pour ça qu'elle est devenue championne du monde. En tout cas, moi, c'est grâce à elle que j'ai appris à bien préparer les skis.
Ah, c'est bien, ouais. Après, on parle de skiman, mais après, à un autre moment, tu t'es envoyé en l'air et tu es devenu parapentiste man. Là, c'est ta grande passion actuelle.
Oui, oui, c'est vrai, quand on habite en montagne, voilà, si on ne veut pas trop s'embêter, il faut qu'on trouve... des occupations. Ah ouais. Donc l'escalade.
Et c'est pas trop compliqué les parapentes de
oh, il y a pas plus simple.
De s'envoler comme ça sur un tapis volant.
Il y a pas plus simple qu'un parapente. C'est même plus facile que le vélo,
C'est pas vrai, arrête, mais c'est plus dangereux, non ?
Alors pour piloter l'engin, c'est plus facile qu'un vélo, mais après c'est sûr qu'on a affaire à un élément qu'on ne voit pas.
Qu'on voit comme Ica, quoi. Uh-huh. Et là tu fais ça au Markstein, tu vas en Alsace.
Alors oui, selon la direction du vent, oui. Bon, globalement, une fois qu'on est à Markstein, une fois qu'on est sur la crête des Vosges, quelle que soit la direction du vent, on a un site à portée de main.
D'accord. On va demander à notre ami d'écouter une petite musiquette là qui va te plaire, tu vas voir, pour lancer quelque chose de différent.
J'adore. J'adore Barbara.
C'est beau, hein, Barbara.
J'adore Barbara.
Gollingen, c'est une magnifique.
Eh ben oui, ce morceau-là.
Qui se lamente et qui se traîne. Mais l'amour y fleurit quand même. À Göttingen, à Göttingen. Ils savent mieux que nous, je pense. L'histoire de nos rois de France. Hermann, Peter, Helga et Hans. À Göttingen. Et que personne ne s'offense, mais les contes de notre enfance.
On a la chair de poule hein, quand
c'est
on écoute
splendide.
Ça. C'est magnifique,
c'est
Barbara.
Splendide.
C'est magnifique. Alors, si je t'ai mis Barbara, c'est aussi pour parler d'une autre passion, de jazzman. Tu es un jazzman, tu es un batman, tu joues de la batterie et tu fais de la musique.
Oui, oui.
Raconte-moi ça.
J'ai toujours aimé la musique, même si je suis un autodidacte complet. Je joue un peu de tout, hein, un peu de la batterie, un peu de la guitare, un peu de
clavier,
un peu de piano, ouais, je joue un peu de tout. Mais c'est vrai que dans le groupe dans lequel on a enregistré un CD, tout ça, je suis plutôt batteur, percussionniste. Et le jazz, parce que c'est les opportunités, les gens qui m'ont fait confiance, qui m'ont demandé de jouer avec eux, faisaient du jazz.
Est-ce que je pourrais te faire entendre une toute petite musiquette de jazz ? Parce que pour moi, le jazz, c'est ça. Vas-y voir, Thomas, mets-moi Bourvil.
On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il n'y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 non.
Tu vois, moi je pense que le jazz pour moi c'est de la tendresse.
Oui,
c'est plein d'instruments qui se parlent. Tu penses un peu à la même chose,
tout
toi ?
Tout à fait, tout à fait. C'est un dialogue le jazz. C'est vraiment un moment de partage, c'est un moment de discussion. Alors c'est vrai qu'on dit des choses ensemble et puis après chacun s'exprime. Et c'est vrai que le jazz permet ça.
Et c'est pas d'une sorte de cacophonie, le jazz, c'est pas du chaviravi, d'après toi, Cambis, tu penses pas que c'est un mélange de tout ça qui fait que le jazz...
Alors, moi, je sais pas si je suis qualifié pour te répondre, mais enfin, c'est une musique, en tout cas en ce qui me concerne, qui me va droit au cœur. J'adore personnellement cette musique. Après, c'est une musique qui permet vraiment la discussion. C'est ça. Moi, c'est ça qui me plaît dans le jazz, c'est que on se parle, on se raconte.
Tu veux dire que les instruments se parlent d'un instrument à l'autre?
Oui. On se parle, on se répond.
C'est joli.
Oui, on dit des choses ensemble, on a un thème général qu'on joue ensemble, et puis chacun...
C'est l'amour
Voilà, c'est l'amour, chacun fait sa part, et puis on discute.
Bah écoute, on a bien discuté pendant une bonne demi-heure, ça m'a fait plaisir, Cambis, de te recevoir ici. Écoute, continue comme ça avec tes man, véloman, jazzman, skiman. Merci beaucoup d'être venu au micro de Radio Judaïka. Et shalom.
Shalom.
Voilà, c'est fini. On a tant ressassé les mêmes théories. On a tellement tiré chacun de notre côté. Que voilà, c'est fini. Trouve un autre rocher petit.